Chers auditeurs, tout a commencé à l'île 3, dans le bâtiment Extension, en face du théâtre des Passerelles. Dans ce recoin peu fréquenté, un vendredi après-midi, j'ai fini par croiser des petits êtres qui s'affairaient. C'était le jour de la Sainte Marguerite, c'était le 16 novembre dernier. Laissez-moi vous décrire ce que j'ai vu. Il y avait un homme qui déroulait une frise, sur laquelle il plaçait des grands portraits. Un autre qui mangeait du nougat et un troisième qui se baladait sur un élévateur en klaxonnant. À tout va. Suis-je bien où je pense que je suis ? Les autres personnes présentes étaient comme moi. Elles regardaient la scène et parfois la commentaient. Ce jour-là, lorsque je rencontre Dominique Lefebvre, présidente d'Action Culture, je comprends et elle m'explique que le dispositif mis en place n'est pas innocent. Pam ! C'est-à-dire confrontation directe avec l'étudiant ou l'individu qui passe par là. L'idée ici n'est plus seulement de réserver une salle qui enfermerait les œuvres d'un artiste. Il faut que celle-ci aille à la rencontre du public, directement. Ce que j'avais sous les yeux, c'était donc la création d'une exposition. Aujourd'hui, elle est belle et bien installée. Lorsque vous entrez dans cette partie de la fac, vous vous retrouvez nez à nez avec de multiples photos, des visages. C'est le face-à-face de la mort qui tue, l'expérience même de l'altérité. En fait, on ne peut pas s'empêcher d'être attiré par la profondeur des regards qui sont affichés. Il y a une sorte de magnétisme. C'est puissant, ça vaut le détour. Université ne rime pas d'emblée avec lieu d'exposition, mais demeure un lieu de rencontre et d'échange. Voilà qui justifie l'ambition du festival Matière Sensible. Conquérir un territoire dont la vocation initiale n'est pas artistique. Avec nous aujourd'hui, nous avons Nkrumah. Vous êtes donc un des photographes que l'île 3 a choisi pour sa programmation culturelle.
C'est bien ça.
Comment ça se fait?
En fait, je participe au festival Matière Sensible depuis 2007, qui a été l'année de la première édition. Et Eric Dehoun, qui est le commissaire et le directeur du festival, entretient de très bons termes avec Dominique, qui est donc la directrice d'Action Culture à l'Université Lille 3. Et il a fait cette proposition sur cette série que je lui présentais régulièrement depuis 6 mois, un an et demi, 2 ans, depuis les débuts. Et c'est vrai que depuis 2007, le territoire de Lille a été tous les ans l'occasion pour moi d'expérimenter, tester mes séries. Et c'est vraiment un territoire de découverte, d'expérimentation, qui plus est chaleureux. Et c'est vrai que le fait que ce soit dans une université qui est un lieu où vivent les étudiants, mais où ils ne vivent pas en même temps, ils sont simplement en transit jusqu'à une certaine heure, c'était intéressant. Et c'est vrai que sur ce projet, cette série de portraits, j'avais, lorsqu'il m'a proposé d'investir ces lieux de passage qui ne sont absolument pas dédiés à ça, l'excitation a été particulièrement forte et je lui dis, on y va tonton.
D'où venez-vous? Quel est votre parcours?
Alors je suis né au Togo en 1974 et on est...
Quel jour s'il vous plaît?
Quel jour? Le 29 septembre, je crois que c'était un jeudi.
D'accord,
à 13h14.
Très bien.
À peu de choses près. Et je suis arrivé en France avec ma famille en 1979 en tant que réfugié politique. Le Togo a été une dictature jusqu'à il y a quelques années encore. Et lorsque la dictature a cessé, c'est le fils du dictateur qui a été élu.
C'était pas mieux.
Sans commentaire. Et j'ai grandi en Picardie. On est resté 6 mois dans un tout petit village qui s'appelle Apremont.
Ah, je connais, c'est près de chez moi.
C'est pas vrai.
Si.
C'est fantastique. On était les Africains du village. Mais je dis ça comme ça, l'époque ne permet pas forcément de faire ce genre de plaisanterie, mais c'est vrai que ça a été 6 mois particulièrement heureux. Et puis mon père a retrouvé du travail, ma mère aussi, et nous sommes ensuite partis nous installer à Creil, où j'ai suivi mes études jusqu'à la fin de la troisième, puis le lycée à Chantilly. Et ensuite, je suis allé à Vanves pour une année de prépa qui a été catastrophique. Et j'ai intégré l'université de Jussieu, Paris 7.
Et la photographie dans tout ça?
Oh, c'est bien plus tard. Non, la photographie a débuté en... Enfin, j'ai suivi en 2007 une formation à la photographie par le biais du fonds GESIF. C'est un fonds auquel tout le monde cotise, qui donne des droits à une formation professionnelle tout au long de la carrière professionnelle d'une personne lambda. Et en fait, en quelques années auparavant, je m'étais mis à la photo comme... parce qu'il fallait bien faire quelque chose de ses 10 doigts, de ses 2 mains et de sa tête. Et en fait, c'est allé un peu plus loin que ce que je pensais. Et au final, tout mon temps y passait, tout mon argent y passait. Et mon entourage, saturé de me voir faire ça constamment, m'a dit « Bon, écoute, tu devrais peut-être te consacrer à la photo, au moins tenter l'essai. » Et l'essai était fructueux. Au terme des 9 mois de formation, j'ai quitté mon travail et je me suis jeté à l'eau.
J'ai cru comprendre que vous étiez sous le label Made by Africa.
Oui.
Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que ça implique dans votre démarche ?
Ce n'est pas une réelle incidence ou une réelle implication. C'est la mutualisation de pensées et de moyens de groupes d'artistes, pour la plupart issus de la diaspora. En fait, c'est un non-lieu où on peut échanger, s'agresser, se complimenter... Et mettre en commun les ressources que nous avons. Donc ça va du matériel jusqu'au contact, au réseau. Et une fois encore, c'est Eric Dehoun qui a permis de créer ce label, qui a fédéré pas mal des artistes qui suivent le festival Matière Sensible depuis 2007.
Pour en revenir à l'exposition, comment est-ce que vous choisissez vos modèles ?
Bon, en fait, lorsque j'ai envie de photographier quelqu'un, je lui tombe un peu dessus, quoi. C'est-à-dire, je suis photographe, qu'est-ce que tu fais dans 2 jours, telle heure ? Puis on me regarde les yeux un peu écarquillés, puis je dévoile mes intentions, et en fait, je harcèle les gens jusqu'à ce qu'ils disent oui, quoi. Et après, ce qui définit le choix du modèle, c'est pas... sont des proches pour la plupart ou des gens que je rencontre de façon très, très, très anodine ou comme au quotidien. Et ces visages, il n'y a pas de vrai casting. Ce que je voulais, c'était montrer des vrais gens, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans des critères de beauté terrorisants,
formatés.
Et surtout, c'était vraiment des gens ordinaires, en fait. Parce que j'ai beaucoup d'affection pour... pour tous ces visages qu'on néglige ou qu'on n'intègre pas forcément dans la pratique artistique au quotidien, que ce soit la peinture, la photographie ou autre.
Est-ce que tu donnais des consignes particulières à tes modèles ?
Oui. En fait, l'idée, c'était de rechercher ce que j'avais vu une fois et qu'on appelait le regard zen, en fait. C'est le regard détaché de tout. Et du coup, en fait, sur cette série de portraits, la difficulté, c'était... d'avoir un visage neutre. Quand j'entends par neutre, c'est qu'il n'est pas orienté ou vers un excès de sourire, ou vers une crispation, ou vers une pose classique qu'on a vue sur des magazines ou sur Facebook pendant des années et des années. Donc la seule indication, c'était vraiment que le visage soit relâché. Et au bout de la 5e ou 6e personne, parce qu'en fait, j'ai dû photographier 40 de personnes pour cette série. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était très difficile d'expliquer aux gens de ne pas avoir d'expression. C'est un moment très embarrassant, en fait, de regarder l'objectif et de se vider la tête. Du coup, la plupart des photos, la plupart des visages que vous verrez, en réalité, je leur demande de fermer les yeux.
Bah, j'en ai vu qu'une, moi.
Oui, j'en ai gardé quelques-unes, juste pour donner une respiration sur certains endroits. Mais voilà, en fait, les photos... lorsque les yeux, enfin, les visages tels que vous les voyez, tels qu'ils sont accrochés et présentés à l'exposition... pour la plupart, pour arriver à avoir cette expression ou cette non-expression, je leur demande de fermer les yeux. Et c'est pile au moment où ils rouvrent les yeux, après un long silence dans le noir, que j'arrive à capter cette expression.
Justement, donc les photographies semblent avoir... à l'état brut, il y a quelque chose de très... spontané, authentique, qui traverse la photo. Tu dois avoir, je suppose, une certaine éthique de la photo, puisque... il y a l'air d'avoir un simple, entre guillemets, travail sur la lumière et les contrastes, mais pas de Photoshop.
Non, pas de Photoshop. Là, on a tout laissé, les boutons, les rides, les cicatrices, les marques de fatigue, les petites croûtes à certains endroits. Mmh. Là, c'était que... Bah, c'est vraiment donner un visage à voir comme un paysage, en fait. Le visage, c'est une moyenne faite de tout un tas de choses. Et aussi, ce qu'il y a, c'est qu'à l'origine de cette série, Homo sapiens n'est pas à vendre. Enfin, is not for sale. Je sais qu'il y a un jour où je suis rentré je suis rentré chez moi après une grosse journée de boulot. Je suis passé par la pharmacie et il y avait tous ces visages sur les PLV, enfin, qui vous invitent à consommer tel ou tel produit. Et j'ai vu un bébé qui avait été photoshopé à mort. Pas de bourrelet, rien. Même pas un bébé, c'est grassouillé, ça a dépli. Non, celui-là, on n'en avait pas. Et le visage était parfaitement lisse, les grands yeux bleus, machin, etc. Et je suis parti du principe que toutes ces images auxquelles on est confronté tous les jours, en réalité, nous influencent et nous programment d'une certaine façon. Et je me suis dit, il faut que je me lave la tête de tout ça. Donc ça a commencé aussi un peu comme ça. Bon, il y a d'autres raisons pourquoi cette série, mais là, comme ça, à pied levé, quand j'y pense, c'était vraiment le côté j'en ai assez, quoi.
Ouais.
Je vais me laver la tête et voir les gens comme ils sont et comme ils sont beaux.
Quels sont les lieux ou les instants qui t'inspirent le plus, qui te donnent une envie irrépressible de prendre une photo?
C'est la rue. C'est mon rêve, ça serait de pouvoir photographier les gens dans le métro sans me faire agresser ou me faire taper.
Tu t'es déjà fait taper?
Non, ça m'est jamais arrivé. Non. Non, mais c'est vrai que... En fait, j'ai eu la chance de voyager un petit peu, voir beaucoup, Afrique, Asie, Moyen-Orient, et c'est vrai qu'on peut photographier les gens quasiment à la volée à tout moment, quoi. Et quand j'entre dans mon pays, la France, c'est photographier quelqu'un dans la rue, ou ne serait-ce que pointer l'appareil et l'objectif vers elle, c'est...
une agression
suite, oui, c'est une agression. On n'est pas le bienvenu. Enfin, il y a comme une intrusion. Les gens se sentent agressés ou le mot est probablement un peu fort, mais violenté d'une façon, quoi. C'est-à-dire... je ne sais pas. Et moi, je sais que vraiment, les moments où vraiment j'ai envie de faire des photos, c'est... Lorsque je me promène dans la rue ou alors dans les transports, c'est... Les gens sont beaux quand ils marchent, quand ils ont la tête ailleurs, quand... Enfin bref.
Quel est l'endroit le plus original où tu es exposé ? S'il n'y en a pas, au pire, tu peux me dire quel est l'endroit le plus original où tu voudrais.
Ah, deuxième. Ah, ça, je peux répondre.
Ouais.
Je passe à peu près la moitié de mon temps en Suisse. Et mon rêve, ça serait d'implanter cette série Homo sapiens is not for sale le long des voies ferrées de la SBB, les chemins de fer suisses.
On aura le temps de les voir parce qu'il faut que les trains soient un minimum longs.
Oui, mais en fait, comme c'est très vallonné, que les pays... Enfin, Bah c'est la Suisse, en fait, la perspective porte loin. Et puis l'idée, c'est pas que les gens viennent aussi s'installer. Mais mon rêve, c'est vraiment de l'installer en race campagne, que les vaches puissent se promener, que les gens fassent ce qu'ils aient à faire entre les pommiers. Et que, bah, on lèverait le nez de son journal et puis on verrait ses visages comme ça, à toute vitesse. Et ça serait vraiment l'objectif pour 2013.
Donc c'est possible?
Oui, on est en pourparler. C'est compliqué, il faut beaucoup d'autorisation en Suisse.
À travers tes portraits, le thème et la question de l'identité deviennent concrets. Pourquoi est-ce que tu y portes un intérêt particulier?
La question de l'identité, c'est... En fait, mon travail, c'est la question du devenir. C'est l'espace, le temps, la mémoire et l'oubli. Et au milieu de tout ça, revient de façon quasi constante le thème de l'identité. Quand j'ai commencé cette série, il y avait un propos qui était défini. Et en même temps, l'idée, c'était de réaliser cette série comme une expérimentation et voir ce que ça donne. Et c'est vrai que tous ces visages sont uniques, enfin, il y a une identité unique, mais le regard, en fait, est toujours le même. Je sais pas, en fait, j'ai réalisé cette série avec une finalité qui était l'histoire qu'elle raconte, Homo sapiens n'est pas à vendre, mais en même temps, c'était aussi l'occasion de réaliser une expérience que je voyais se réaliser au fur et à mesure des clichés. Et aujourd'hui... L'état des lieux fait que je suis plutôt content du travail photographique, mais l'expérience en elle-même, ce qu'elle me livre, c'est que le regard est le même, en fait. C'est l'interaction est la même, et que ça se passe au niveau du regard. Et je me rends compte que la notion d'identité, passé un certain cap, enfin en termes d'image et de rapport aux visages qui sont donnés à voir, est présente, mais en même temps elle passe à un niveau tellement secondaire, voire tertiaire, c'est...
Face à l'universel de ce regard.
Merci madame.
Donc Bruno, tu es donc doctorant à Lille 3 et prof de philo.
Oui.
Et donc tu as choisi d'associer Nkrumah à ton travail avec tes élèves.
Tout à fait. À partir effectivement de l'œuvre que je trouve splendide d'Nkrumah, j'ai voulu associer mes élèves dans une démarche pédagogique, en fait une pédagogie que je dirais plutôt nouvelle, pédagogie active. Ma volonté était qu'ils puissent mobiliser, je dirais, leur perception individuelle afin de donner une représentation, leur représentation philosophique autour de la thématique de l'altérité de l'œuvre d'Nkrumah. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée est que chacun d'entre eux contacte en fait une photo et à partir de leur... si je reviens sur la phénoménologie, la perception de Merleau-Ponty, c'est-à-dire de leur perception, ils puissent se représenter ou donner une représentation philosophique de ce qu'ils voient, de ce qu'ils perçoivent, à partir de mots-clés. Donc on se rapproche un peu de photolangage, on va parler aussi des photolangages, c'est-à-dire qu'une photo évoque nécessairement quelque chose à l'homme, à l'individu, et à partir de là, ils sont amenés à contacter à partir de mots-clés qui leur sont personnels, un texte philosophique autour de la thématique de l'altérité. Je rappelle que la thématique de l'altérité, autrui, puisque mes élèves sont de terminale scientifique, d'ailleurs je me permets de leur faire un petit coucou aux élèves de la Croix-Blanche. Hein. j'aimerais leur dire qu'effectivement la thématique de l'altérité et autrui n'est pas contactée dans les référentiels de l'éducation nationale pour ces terminales S, et je pensais que c'était vraiment important qu'ils puissent,
travailler
sur cette notion, tout à fait. Voilà la démarche que je souhaite faire avec eux. Donc demain, ils seront à peu près 70, puisque l'invitation...
Demain, c'est le vernissage,
demain, c'est le vernissage, oui, tout à fait, à 18h30. Donc ils seront à peu près 70 à vouloir venir voir cette exposition. C'est aussi pour eux l'occasion de découvrir un lieu nouveau, l'université, d'aller à la rencontre de d'autres personnes, et notamment d'Nkrumah, de pouvoir discuter avec lui autour de son œuvre, mais aussi de voir cet environnement, je dirais, un autre environnement que leur lycée, de sortir de leur lycée, de la Croix-Blanche, afin de découvrir cette œuvre artistique.
Et l'univers dans lequel ils vont peut-être...
Et l'univers dans lequel ils perceront sûrement pour certains d'entre eux. Mais pour la plupart, ils se destinent à être médecins, dans d'autres professions. Mais cela dit, n'oublions pas qu'en fin de première année de médecine, les épreuves, et notamment l'épreuve la majeure, est une épreuve de sciences humaines et sociales, donc, où ils contactent effectivement leur notion philosophie.
Donc, on ne passe pas à côté.
On ne peut pas passer à côté. Alors aussi, ma volonté, c'est surtout de voir l'éducation autrement, à partir de ce qu'ils vivent, de leur expérience vécue, pouvoir apprendre. Donc, en fait, c'est susciter le désir d'apprendre chez mes élèves, apprendre la philosophie. Je pense que depuis le début de l'année, je leur dis, ma volonté, c'est que vous aimiez la philosophie. Donc, aimer la philosophie, c'est aussi, je pense... utiliser d'autres formes de pédagogie comme cette pédagogie interactive et active.
Nkrumah.
Juste un tout petit quelque chose parce que...
En réaction par rapport à...
En réaction, oui, si tu veux bien. Si je peux me permettre, j'avais fait une terminale C à l'époque,
ouais.
À l'époque où la terminale C existait encore et,
ouais.
Et tout le monde voulait faire prépa, devenir médecin, ingénieur, etc. Et je sais qu'une des plus grandes fulgurances, en fait, ça a été le cours de philosophie qui avait été donné par Madame Duviol au lycée Jean Rostand à Chantilly. Je m'en souviens encore. Et c'était le contrat social de Rousseau et ça m'avait explosé la tête, en fait. Pour moi, c'était de l'algèbre littéraire, c'était fantastique. Et encore aujourd'hui, je m'en souviens et ça fait partie de mes, de mes souvenirs de pré-adulte. Ah non, mais vraiment, c'était... tous ces futurs médecins, avocats, comptables, scientifiques, ouais. La philosophie est extrêmement importante, c'est ce qui les distinguera les uns des autres, d'ailleurs.
Ouais. Je suis d'accord avec toi, Nkrumah, et je pense que nous devons aussi de réapprendre à penser autrement aujourd'hui.
Ouais,
et peut-être que ça passe par l'abstraction de la philosophie, c'est une chose, mais le côté aussi pragmatique, dirais-je, et concret est important pour mobiliser aussi sa pensée philosophique, pour mobiliser et construire sa pensée philosophique.
Ouais, parce qu'il y a de la philosophie dans la science et de la science dans la philosophie. Vraiment, c'est un tout et bon, c'était juste ça. Et voilà.
Tout à fait.
Merci à vous deux d'avoir participé à cette émission.
Merci aussi.
Merci à vous. Rendez-vous jeudi 18h30.
Voilà. Au Théâtre des Passerelles.
Au Théâtre des Passerelles.
Théâtre des Passerelles à l'Université Lille 3.
Merci à Megan Keki et à ses invités. Megan que l'on retrouvera en janvier. J'allais dire je lui souhaite de bonnes vacances, mais bon, je sais qu'elle a beaucoup de boulot là. Et je lui souhaite donc bon courage.